Et le journal vous est présenté par Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Le monde médical a découvert hier les mesures structurelles issues du Ségur de la Santé, des mesures un peu trop axées sur l'hôpital et pas assez sur la médecine de ville, estime la spécialiste de la santé Laurence Hartmann que nous entendrons.
Le futur de la recherche française en question, avec, nous le disions, la présentation en Conseil des ministres ce matin de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, une loi très critiquée et depuis déjà plusieurs mois par une partie de la communauté scientifique. Nous ferons le point avec Hakim Kasmi.
L'accord sur le plan de relance européen trouvé hier matin suscite des réactions mitigées dans les rangs de l'opposition française, tour d'horizon à l'Assemblée nationale dans ce journal.
Enfin, un vaste réseau de la mafia calabraise a été démantelé en Italie et en Suisse après une enquête de 4 ans. Les précisions à venir de Xavier Sartre.
Le monde médical a écouté avec attention hier les mesures promises par Olivier Véran, le ministre de la Santé, et annoncées à l'issue du Ségur de la Santé. Pour redonner de l'air au monde hospitalier et éviter de futurs engorgements lors de crises sanitaires comme celle de la Covid, 4000 lits seront créés à la demande et le financement des établissements de santé sera revu avec en vue une réduction de la tarification à l'activité très décriée. Beaucoup des mesures annoncées concernent donc l'hôpital. Et pour la spécialiste de la santé, Laurence Hartmann, enseignante et chercheuse au Conservatoire national des arts et métiers, c'est un problème. Elle trouve la place de l'hôpital disproportionnée dans un système de santé français qui doit, selon elle, faire plus de place aux soins de ville. Écoutez-la.
Mon sentiment, c'est que là, en fait, on se débat encore avec l'hôpital à court terme. Mais le problème, c'est que l'hôpital occupe beaucoup trop de place en France. C'est-à-dire qu'il nous coûte très très cher. Pourquoi ? Parce qu'on fait pratiquement la moitié des soins à l'hôpital. Et pourquoi ? Parce que les soins de ville ne sont pas suffisants dans certaines régions pour prendre en charge les patients, entre autres. Et qu'on a une logique totalement libérale dans les soins de ville qui ne contribue pas à une coopération suffisante entre les deux types d'acteurs. Donc au final, on entretient cette espèce de place énorme à l'hôpital qui coûte très cher et pourtant avec des personnels qui ont été jusqu'à présent mal payés, des investissements qui ont chuté, des endettements qui ont cru. Le vrai changement qu'il faut attendre des réformes, c'est un recentrage de l'hôpital sur ses fonctions premières et la réduction de sa part dans l'ensemble du parcours de soins du patient. Le problème de l'hôpital, il va se résoudre par la médecine de ville, en réalité. Là, ce sont des réformes qui sont nécessaires, bien sûr, pour le financement, etc. Mais la vraie difficulté, c'est de réviser le fonctionnement en ville et la coopération avec l'hôpital. Ça, c'est clair.
Laurence Hartmann, interrogée par Wafia Kenich. Les chercheurs l'appellent par son acronyme, la LPPR, ou loi de programmation pluriannuelle pour la recherche. Elle est présentée ce matin en Conseil des ministres, un projet porté par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, et un projet dont le budget s'élève pour l'instant à 25 milliards d'euros. Le texte a déjà fait l'objet de nombreuses critiques de la part du monde des enseignants-chercheurs, un monde discret habituellement, mais qui s'alarme depuis plusieurs mois déjà d'un texte adopté via un passage en force, selon eux, qui accentuerait encore les maux dont souffre déjà la recherche française, en encourageant par exemple le financement par appel d'offres ou en créant les CDI de projet, autre façon de nommer un CDD. Les syndicats, les collectifs créés à l'occasion de ce nouveau projet de loi appellent au contraire à une augmentation des titularisations des personnels dans un monde scientifique déjà touché par une grande précarité. Le point sur ce texte avec Hakim Kasmi.
Avec ce plan qualifié d'historique par Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche espère atteindre un budget qui représente près d'1% du produit intérieur brut. Une obligation à l'heure où la compétition est devenue mondiale. Il s'agit aussi d'une question de souveraineté, comme nous l'a rappelé la crise de la Covid-19. C'est pourquoi 20 000 postes seront créés, dont 5 000 en CDI. Mais attention aux effets d'annonce, préviennent déjà les syndicats, car sur les 25 milliards d'euros, une grande partie était déjà prévu depuis longtemps. Des partenaires sociaux qui regrettent également un projet de loi qui va privilégier une recherche ciblée au détriment de la recherche fondamentale qui ne représente aujourd'hui que 10% des projets. Hervé Christoffel, porte-parole du SNESUP, principal syndicat d'enseignants-chercheurs.
Cette loi de programmation pluriannuelle de la recherche, c'est avant tout un outil de destruction des statuts, de mise au pas des chercheurs pour leur imposer de travailler uniquement sur des thématiques décidées par le haut, décidées par les politiques, décidées par les intérêts industriels et de casse également des statuts puisque c'est un recours massif à l'emploi précaire.
Une précarité qui touche aussi les jeunes chercheurs, puisqu'en moyenne, ils sont recrutés en CDI dans le public qu'à 34 ans et ne touchent que 1800 euros par mois, malgré 8 à 10 ans d'études dans le supérieur. Des salaires et des moyens bien inférieurs par rapport à certains de nos voisins européens, comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne. C'est pourquoi certains d'entre eux font le choix de partir à l'étranger. Une fuite des cerveaux qui risque à terme de pénaliser notre innovation.
Voilà un projet de loi dont il sera largement question ce matin avec vos invités, Chloé.
Oui, il est 7h05, Anne-Laure Chouin, 24 heures après l'adoption pour beaucoup historique d'un grand plan de relance européen. L'enthousiasme des chefs d'État fait peu à peu place aux critiques.
Notamment parce que cette adoption qui prévoit pour la première fois une dette commune s'est faite au détriment de plusieurs programmes communautaires européens, pourtant jugés essentiels il y a quelques mois. Le Green Deal se voit ainsi raboté, le Fonds européen de défense ou encore le Fonds européen de recherche qui perd 8 milliards d'euros. Mais hier soir au journal de 20h, Emmanuel Macron assurait sans faire rire le service après-vente d'un accord qu'il a contribué avec la chancelière allemande à faire adopter. Son enthousiasme n'est évidemment pas partagé par toute l'opposition. Rosalie Lafarge était hier à l'Assemblée nationale.
Il salue le fait même d'avoir trouvé un accord, mais pour Damien Abad, le patron des LR à l'Assemblée nationale, il reste quand même deux questions majeures.
D'abord, la question du financement de cet emprunt. Nous refusons que ce financement se fasse par un impôt européen qui touchera les Français. Et la deuxième question majeure, c'est la contrepartie qui a été accordée aux pays dits frugaux, qui en fait vont voir leur contribution au budget européen chaque année baisser. Ça veut dire que le risque pour la France, c'est la réduction des crédits pour la politique agricole commune, ou encore pire, pour la politique de santé et l'Europe sanitaire que l'on veut construire.
Deux questions auxquelles Jean-Luc Mélenchon, chez Les Insoumis, a déjà la réponse.
Nous nous sommes fait plumer. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a progressé dans cette histoire, à part le degré que l'on fait de pression sur les Français.
Ce qui a progressé est pourtant évident pour Valérie Rabault, côté socialiste, et Jean-Christophe Lagarde à l'UDI.
Même si ce n'est pas suffisant, même si c'est un compromis, pour la première fois, il y a quand même l'acceptation du fait que on ne peut pas faire que du business en commun, on doit aussi avoir des objectifs en commun.
Pour la première fois, l'Union européenne va aller emprunter, elle va le faire pour tout le monde. C'est une vraie solidarité, c'est une première.
Ce principe d'un endettement commun, c'est un tournant dans la construction européenne, a surenchéri le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian dans l'hémicycle, sous les applaudissements fournis des bancs de la majorité.
Les États-Unis voient leur nombre de décès et de cas liés au coronavirus exploser ces derniers jours après une relative accalmie, ce qui a sans doute poussé le président américain à retrouver une certaine gravité concernant l'épidémie, alors qu'il y a deux jours seulement, il estimait que tout cela allait s'arrêter vite, je cite. Signe de ce retour au sérieux, Donald Trump a repris les conférences de presse régulières à la Maison-Blanche sur le sujet. Un retour sans doute aussi causé par sa baisse continue dans les sondages à quelques mois de la présidentielle. Une vaste opération anti-mafia en Italie et en Suisse a permis de démanteler un réseau important et d'arrêter 75 personnes, toutes impliquées dans des trafics de drogue, d'armes et de blanchiment d'argent. C'est la police financière italienne qui a permis ces arrestations après des enquêtes menées dans 4 cantons suisses. Notamment, la plupart des personnes impliquées appartiennent à la mafia calabraise, la seule mafia italienne rayonnant sur tous les continents. 169 millions d'euros de biens ont été mis sous séquestre après une enquête de plusieurs années, les précisions à Rome de Xavier Sartre.
Il aura fallu 4 ans à l'équipe mixte italo-suisse de magistrats et de policiers pour démanteler un réseau de la 'Ndrangheta, la puissante mafia calabraise. C'est le clan Anello qui a été principalement visé lors de l'opération menée aussi bien dans le sud de l'Italie qu'en Suisse. Résultat de ce coup de filet, en Italie, pas moins de 124 terrains et 116 biens immobiliers ont été saisis, ainsi que 26 entreprises, 84 véhicules, sans oublier les comptes en banque et un véritable arsenal, fusils, carabines, kalachnikov et pistolets. En Suisse, dans les cantons d'Argovie, de Soleure, de Zoug et du Tessin, des maisons et des commerces ont été placés sous séquestre, ainsi que des armes, des munitions et de l'argent liquide. Si 75 personnes ont été arrêtées, ce sont en tout 158 qui sont concernées par les investigations qui ont mis à jour un réseau de trafic de drogue, de fausses monnaies, sans compter les activités de corruption, de recyclage d'argent sale, d'intimidation et d'extorsion de fonds. Parmi les meilleures prises figurent plusieurs chefs et cadres du clan Anello, des avocats, des chefs d'entreprise et un ancien homme politique, ex-maire de Pizzo, par deux fois assesseur régional de Calabre. Il fut pendant des années le contact politique des mafieux qui lui assurèrent ses diverses élections. Reconverti depuis dans le tourisme, il est resté de mèche avec ses anciens partenaires qui surent s'occuper de la concurrence. Ce démantèlement, c'est aussi la démonstration que la 'Ndrangheta n'est pas un problème uniquement italien, comme l'a rappelé ce mardi le président de la commission parlementaire anti-mafia.
On termine par un mot du temps de ce mercredi, temps sec et lumineux sur le nord de la Loire. Au sud, la grisaille se dissipera vite. À l'est, le ciel sera nuageux et sur le sud-ouest, la journée va débuter sous des nuages, une instabilité qui va se développer sur tous les reliefs. Les températures comptaient ce matin entre 11 et 22 degrés, de 24 à 33 degrés cet après-midi.